Pourquoi est-ce qu'on marche? Vous avez peut-être posé la question, mais vous le savez, vous l'avez forcément remarqué. On est de plus en plus à marcher. Pas de transport en commun, on marche. Pour éviter la pollution, on marche. En refusant un parti politique En Marche, on marche. On peut même remarquer, pour simplifier, que quand on est d'accord, ça marche. Et que quand on n'est pas d'accord, on marche. Parce que la marche, sous couvert de réflexes ou de facultés premières, est toujours politique. Depuis les marches des vainqueurs, de Hannibal ou de Jules César, jusqu'à celle triomphale avant l'heure d'un Mussolini, depuis la fin du 19e siècle aussi, comme le rappelle l'historien Antoine Debecq, quand les ouvriers lâchent leur instrument de travail, se regroupent et se mettent en marche. Depuis les origines de la manifestation et des protestations pacifiques, quand on décide d'opposer à la force son plus simple appareil, c'est-à-dire son corps, rien d'autre que son corps en mouvement. Il faut noter qu'en anglais, le mot « marche » renvoie directement à la manifestation d'une minorité qui revendique un droit. Cette idée d'avancer, il ne faudrait jamais l'oublier. Il ne faudrait jamais oublier non plus que la marche ne doit pas toujours être associée à un système. Il ne faudrait jamais la dépolitiser, en fait. La marche, ce serait la tromper.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il envie de marcher? Depuis sa participation à l'Eurovision en mai dernier, il est devenu, qu'il le veuille ou non, le symbole d'une génération affranchie des normes. 2019 a été son année. Un album, Kingdom, et un livre retraçant son parcours qui s'appelle Singulier. Bonjour Bilal Hassani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Et merci.
Ce matin, pourquoi est-ce que vous marchez aujourd'hui, hier? Pourquoi est-ce que vous marcherez demain?
Je pense peut-être parce que je suis vrai. En tout cas, j'essaye de l'être du mieux que je peux, parce que je suis passionné.
Les marches pour dénoncer les féminicides, notamment, je sais qu'elles vous ont beaucoup marqué. Quand vous avez vu cette foule, qu'est-ce que vous avez ressenti? Par quelles émotions est-ce que vous avez été traversé?
J'étais ému, et surtout, je pense que je suis toujours un petit peu contrarié quand je vois qu'on doit marcher pour revendiquer quoi que ce soit, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est jamais positif. Mais ce qui m'a particulièrement marqué sur les marches, par exemple, contre le féminicide, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de joie, en fait, qui émanait de tout ce qui se passait, et voilà, ça m'a fait du bien quand même.
Et puis une détermination aussi, la volonté d'en finir avec une culture de la violence.
Ben oui. Je pense que ça va être très long et très dur d'abandonner cette culture-là, mais qu'on est en chemin vers quelque chose de, je pense, un avenir meilleur en tout cas. Et c'est beau de voir que les voix qui étaient un petit peu ignorées prennent enfin la parole et sont enfin écoutées.
Vous parlez de vous, en fait, Bilal Hassani, cette culture
autres.
De la violence. En quoi est-ce que vous en faites encore aujourd'hui les frais?
Je pense que j'ai été confronté très jeune, très petit à la violence dans toutes ses formes, parce que j'étais un petit peu, j'aime pas ce mot, mais différent, parce que je rentrais pas dans la plupart des normes de société d'aujourd'hui, en tout cas en France. Et c'est pour ça que ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de m'adapter, et j'ai dû le faire avec la violence, je pense, autour de moi.
Vous parlez de votre apparence, de votre couleur de peau, vous parlez de vos gestuels, vous parlez de quoi?
Je parle de mon identité en général, oui, que ça soit mon apparence, que ça soit ma façon de penser, que ça soit ma façon d'agir, que ça soit mes origines, que ça soit mon nom. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs, je coche beaucoup de cases.
Et le succès n'a rien changé à ça? À cette culture de la violence qui vous est imposée?
Je pense que ça a quand même évolué positivement. J'essaye en tout cas de retenir sur tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et ça me fait plaisir de le voir, qui étaient parties avec un a priori sur moi quand ils m'ont vu la première fois à la télévision, quand ils ont entendu ma chanson à la radio pour la première fois, et qui m'ont rencontré, qui sont venus me voir en concert, qui accompagnaient leurs filles, leurs fils, leurs cousins, cousines, et qui viennent me voir à la fin des concerts en disant « Je suis désolé, j'avais des a priori, mais vous avez l'air d'être un chouette type. » Et ça fait quand même plaisir de voir ça.
Ces a priori, ce qui a été, on peut le dire, des réactions de haine, elles invitent quand même à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui dérangeait, à votre avis, chez vous? Quelle construction sociale, quelles normes est-ce que vous dérangiez, vous?
C'était très difficile à, je pense, analyser ça pour moi, parce que je comprenais vraiment pas. J'ai été un petit peu habitué à un cocon, à une petite bulle d'amour et de joie avec mes amis, avec ma maman, avec mon frère. Où j'avais l'impression que ça n'existait pas, que ça n'existait plus, parce que je l'ai vécu au collège. Et puis après, là, j'étais dans mon petit environnement, et là, d'un seul coup, je débarque dans ce dans le monde réel et tout le monde est frustré parce que j'ai des cheveux sur la tête. Et donc je comprenais pas au début, mais je pense que c'était de voir un jeune, parce que je suis quand même très jeune, qui se connaît, qui sait qui il est.
Qui assumait des identités multiples.
Voilà, et surtout, les gens étaient très confus, je pense, et certaines personnes le sont encore, parce que, comme dirait Madame de Fontenay, mais c'est une fille, c'est un garçon, je ne sais pas. c'est un peu difficile à suivre, en fait, pour certaines personnes, parce qu'il y a les cheveux longs, il y a les traits un petit peu féminins avec le maquillage.
Alors, qu'est-ce que vous lui répondez à Madame de Fontenay quand elle dit ça?
Mais que je suis un garçon qui s'amuse bien et que je suis pas très aigri et que ça me fait du bien, je pense. Ça me rend joyeux.
Et peut-être que ça rend joyeux les autres. Quand est-ce que vous avez compris, Bilal Hassani, qu'en racontant votre histoire, comme vous le faisiez sur les réseaux sociaux, comme vous le faites dans votre autobiographie, votre histoire singulière, c'est le titre du livre, vous aviez le pouvoir d'aider les autres à mieux s'accepter?
C'est le but premier de tout ce que je fais, en fait, finalement, que ça soit la musique, que ça soit ce livre, que ça soit mes vidéos sur Internet depuis le début du lancement de ma chaîne YouTube. Ça a toujours été de raconter mon histoire pour que peut-être un garçon, une jeune fille ou n'importe qui se retrouve dans mon histoire et voit de l'espoir dans son parcours, en fait.
Et des modèles aussi. Pourquoi c'est si important, quand on grandit, quand on se construit, d'avoir des modèles, des gens à qui il est possible de s'identifier?
Je pense que c'est très important parce que quand on est enfant, quand on est adolescent, on a peur de parler avec ses parents, par exemple, avec des amis, parce qu'on commence à se découvrir et on a honte, on se dit, est-ce que j'ai le droit d'aimer ça? Est-ce que j'ai le droit de penser ça? Et quand on a une idole, quelqu'un qu'on admire, moi j'en avais plein, j'en ai encore, on peut avoir cette conversation avec quelqu'un qui va pas nous juger, finalement.
Mais des idoles qui nous ressemblent.
Ben c'est encore mieux quand et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis contente d'être la personne que je suis aujourd'hui, parce que j'avais pas de personnes comme moi quand,
oui,
j'étais jeune. Moi j'avais des modèles, c'était la plupart c'était des femmes et je me voyais en elles, mais en même temps j'avais toujours un petit peu cette culpabilité en me disant oui mais moi je suis un garçon donc c'est pas normal. Mais là quand je rencontre des petits garçons, des jeunes ados qui commencent à se chercher, qui me voient à la télé, qui m'entendent à la radio, avoir mon discours et être la personne que je suis, ils ont moins peur d'être eux-mêmes, finalement.
Et ils sont moins seuls.
Ils sont beaucoup moins seuls.
Quand est-ce que vous vous sentez seul, vous, tiens?
Souvent. Plus souvent qu'on pourrait le croire. Ouais. C'est quand même une aventure et un métier où on se sent souvent seul. On vit des choses assez folles et puis après on rentre à la maison et puis il n'y a pas grand monde.
Sympa pour votre maman qui est votre manager et qui est dans la régie.
Bah, maman, là, elle est là. Mais parce que j'ai emménagé dans mon premier appartement tout seul. Et c'est un peu la nouvelle vie, là.
Bon.
Ça fait pas longtemps.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce, ouais, que mine de rien, à la manière dont les médias parlent de vous, on a parfois le sentiment que votre image et votre histoire prennent un peu le pas sur le reste, sur, oui, la musique aussi. Votre image, il est arrivé qu'elle vous pèse?
Ça m'arrive, mais en même temps, en fait, c'est assez compliqué ce qui se passe dans ma tête. Des fois, je me dis, ah, ça m'énerve parce que les gens, ils sont vraiment bloqués, mais ils font vraiment une fixette sur ma perruque et sur, parce que c'est quand même hallucinant, j'ai juste des cheveux sur la tête.
Que vous n'avez pas ce matin, par ailleurs.
Que j'ai pas ce matin parce que je porte pas la perruque à toute heure de la journée. C'est un accessoire comme des boucles d'oreilles, une casquette, des chaussettes, je sais pas. Donc, il y a des jours où je veux la porter plus que d'autres. Et c'est vrai que c'est des fois un petit peu pesant de voir le personnage dépasser peut-être un petit peu l'artiste. Mais ça l'est pas non plus, parce que des fois, par exemple, on me dit bah, enlève-la la perruque si tu vois que tout le monde parle que de ça, et c'est à ce moment-là que je dis non, parce que c'est aller dans le sens de ceux qui ont envie de me censurer un petit peu, et je le ferai pas.
Parfois, à force de me voir partout, à force aussi de travailler cette image scénique, je ne peux même plus me regarder dans un miroir tant mon image m'écœure. Il m'arrive de me trouver tellement atroce que j'ai envie de pleurer.
Mm.
C'est ce que vous écrivez, page 121 de votre livre, Bilal Hassani. C'est fort quand même.
Ce chapitre-là, en fait, a été écrit pendant une période assez compliquée. Lendemain d'Eurovision, où il y avait eu beaucoup, beaucoup de Bilal Hassani.
Mais un peu trop pour vous, même.
C'était peut-être un petit peu trop pour moi. Il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de trafic et je commençais à me perdre, que ça soit avec mon physique, donc c'est-à-dire que je me reconnaissais même plus, mais je me reconnaissais pas dans la façon dont je m'exprimais, et j'avais un petit peu perdu le jus, en fait. C'est ce que j'appelle la petite flamme. Je l'ai pas perdue, mais elle était vraiment toute petite à ce moment-là.
Et alors, quand elle est pas là, la petite flamme, quand elle est plus là, qu'est-ce que vous faites? Quand ça va pas, qu'est-ce que vous faites?
Je m'enfuis.
Ah bon?
Je pars très loin, ouais. Là, cet été, c'était 13 jours à Singapour, chez mon papa, parce que c'est loin. et je peux être ailleurs et faire complètement autre chose. Et il y a 3 semaines, c'était New York pendant 3 jours.
C'était la première fois ?
C'était la toute première fois,
ouais. Et alors ?
Je suis tombé amoureux, donc j'y retourne la semaine prochaine.
Et la musique, Villa Lassani, la musique, elle vous emmène ailleurs aussi ?
C'est ce que je fais quand je pars, c'est ce que je fais quand je m'enfuis. Et c'est ce que j'arrive pas à faire quand je suis dans le flou et le brouillard, en fait.
Et quand est-ce que vous avez compris que la musique vous faisait du bien ?
J'ai compris ça très très jeune. Je crois que je m'en suis vraiment rendu compte à 13 ans, quand je suis rentré dans ma première école, où j'allais en cours le matin et l'après-midi, que je faisais de la musique, de la danse, du théâtre. C'est là que je me suis rendu compte que c'était ce qui m'habitait, parce que je rentrais à la maison avec Panane et tout. J'étais là, j'aime trop ma vie, j'aimais vraiment trop ma vie.
Il paraît que vous chantiez Queen en boucle.
Je chantais beaucoup de Queen. La première chanson que j'ai chantée, c'était une chanson de Queen. Je sais plus, c'était We Will Rock You, c'est ça?
Ouais.
Ouais, maman a la vidéo de moi à 2 ans et demi en train de chanter l'air. Donc j'ai commencé...
Ça faisait comment? Dites-moi, faites-moi.
Je faisais... Un truc comme ça.
Là, maintenant, Dieu soit loué, vous prononcez les paroles, Bilal Hassani.
Je connais les paroles maintenant. Mais ouais, il y avait beaucoup de Queen, il y avait beaucoup de Michael Jackson, il y avait beaucoup de Tony Braxton, il y avait de tout.
Vous savez, là j'ai envie qu'on joue à un jeu tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord? Je vous fais écouter un titre et vous me dites à quoi il vous fait penser. Vous avez le droit de chanter, vous avez le droit de sauter de joie, vous aurez le droit de crier, de pleurer, tout est permis parce qu'on est dans Boomerang et parce que c'est bientôt Noël. Vous êtes prêts?
Ah oui, je suis prêt.
On y va.
Thriller, j'aime trop cette chanson.
Thriller,
c'est
Michael Jackson.
Je pense que c'est l'un des meilleurs singles jamais sortis de l'histoire de la musique pop. C'est
pourquoi?
Un coup de génie. Parce que tout était parfait. C'est une chanson qui nous rappelle Halloween, mais qu'à la fois on peut l'écouter toute l'année. Elle passe toujours. C'est le premier vrai clip. En vrai, Thriller, c'est le premier clip où il y avait vraiment une histoire, c'était un film, c'était un... Moi, ma mère, elle me raconte souvent l'histoire du jour où le clip de Thriller était sorti et qu'ils avaient tous séché les cours pour aller le voir sur la télé de la cafette ensemble et tout. Et moi, ma première expérience avec Thriller de Michael Jackson, c'est mon père qui me montre le clip. Je le raconte au tout début du livre, il avait montré... Donc il y avait mes cousins, mon frère, mon grand frère et moi, ils nous montrent le clip de Thriller pour nous faire peur, et moi je suis le seul qui a pas du tout peur, j'étais fasciné.
Parce que vous aviez envie d'être lui en fait.
Ah, je voulais être lui, et donc après je l'ai regardé en boucle et j'ai appris la choré par cœur, il y avait tout le truc et tout, et j'ai appris la choré par cœur et je refaisais le clip dans ma chambre.
Cela dit, vous avez envie d'être lui dans une certaine mesure, parce qu'on va pas se mentir, il a un peu mal tourné Michael Jackson.
Il a pas mal tourné mon Michael Jackson. Moi je peux pas parler mal de Michael Jackson.
D'accord. Ouais.
Jamais de la... C'est mon père, il est très comme ça. Mon papa, on peut pas parler de Michael Jackson en mal. Donc ouais. J'ai retenu ça depuis et il a marqué la pop culture à jamais malgré
ça, c'est
tout.
Vrai.
Et il nous a
Allez, une autre chanson qui va vous inspirer, je crois. C'est bon quand même, hein. Britney Spears, Baby One More Time.
C'est un coup de génie. Ça, c'est l'un des premiers disques que j'ai eu, l'un des premiers CD que j'ai eu, c'était 3 petits points, Baby One More Time de Britney Spears. Elle était encore un peu rouquine. Ça, c'est un album qui m'a marqué, un single, une chanson, un clip qui a marqué mon enfance. Moi, je me rappelle que j'avais la chemise que je retroussais comme ça pour avoir le même look que Britney dans les couloirs du lycée. Et avec du recul, moi, à chaque fois, j'analyse encore les morceaux comme celui-ci. Et donc, ça, c'est un morceau qui a été fait par Max Martin.
Compositeur que vous admirez beaucoup.
Que j'admire énormément. C'est mon gros target de vie, c'est un jour de faire une chanson avec Max Martin.
Qui a un nombre incalculable de tubes.
Ouais,
à son actif.
Qui a commencé avec, entre autres, les Backstreet Boys. Il a fait aussi beaucoup de NSYNC et Britney Spears. Mais qui est encore là, qui fait tout Taylor Swift, Ariana Grande. Il suit son temps. Et cette recette, c'est du génie. Mais aussi Britney, c'est du génie. Je sais pas, je raconte une petite anecdote, peut-être qu'elle sert à rien. Mais on lui avait pitché un clip pour Baby One More Time à Britney Spears. Et c'était un dessin animé qu'il voulait faire. Et elle a dit c'est nul. Et c'est elle qui a fait tout le mood board et l'image, en fait. Donc tout le concept du clip dans l'école, le lycée. Et elle avait dit qu'il fallait qu'elle soit habillée en Walmart, qui est l'équivalent de genre de Carrefour aux États-Unis. Enfin, comment on va dire Monoprix aux États-Unis. Et donc, sa tenue dans le clip de Baby One More Time coûtait $30. Et pour que toutes les filles puissent acheter la même tenue que Britney Spears.
C'est intéressant parce que ça nous invite à réfléchir sur ce que c'est qu'un tube. Vous parliez de recettes, là, vous parlez de mise en image. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça tient pour vous un tube, Bilal Hassani?
C'est un rêve déjà pour moi de le trouver un jour. Et je pense qu'on... On utilise trop facilement le mot tube aujourd'hui. Un tube, pour moi, c'est plus qu'une chanson. C'est ce qui fédère, en fait. Et c'est ce qui rassemble. Et c'est là où les gens, ils vont vraiment tous ensemble être d'accord sur une chose. C'est un moment comme la finale de la Coupe du Monde de football où la France gagne et qu'on s'aime tous. Ça, c'est l'équivalent d'un tube en une situation sociale.
Genre. Ouais, si on parle de tube, Bilal, là, on va tous être d'accord. Hein.
Voilà.
Ah, vous faites tout le bois. J'adore. Beyoncé Crazy in Love.
Ça, c'est du génie. Ça, c'est, pour moi, c'est la meilleure chanson de tous les temps.
C'est vrai?
C'est ma chanson préférée de tous les temps, de tout ce que j'ai pu entendre.
Et vous avez dit qu'elle vous a sauvé la vie.
C'est une chanson, oui, qui m'a sauvé la vie.
Mais sauvé de quoi?
Y a eu plein d'instants où en fait cette chanson je la retrouvais dans mon parcours à des moments où j'étais pas très bien et qu'elle me reboostait. Cette année ça m'est arrivé des moments où j'étais vraiment vraiment triste parce que ça allait vite et que j'avais peur et Crazy in Love et c'est bon, tout va mieux.
Qu'est-ce qui fait de Beyoncé une reine pour vous, la reine?
La reine, ma reine Beyoncé, c'est le travail. L'éthique de travail de Beyoncé est très inspirante. C'est quelque chose que j'admire chez elle et que j'ai toujours observé et analysé. C'est sa façon de bosser. Donc quand Beyoncé dit qu'elle a bossé 12 heures par jour pendant 3 semaines sur un concert, moi j'ai fait un mois et demi de répétition de 8 heures par jour pour ma tournée. Et c'est vraiment, ça m'inspire, ça me motive. C'est une artiste qui me booste.
C'est à ce moment-là que vous vous sentez roi, alors, quand vous travaillez?
Un petit peu, mais moi c'est surtout quand je travaille et surtout c'est ce que j'aime faire. Parce que j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup fabriquer, j'aime beaucoup imaginer. Mais c'est surtout le moment où je rentre dans le dur, quand je commence vraiment à préparer les choses et à suer vraiment comme il faut, que j'aime, je pense, ce que je fais.
Vous savez quoi, on va rentrer dans le dur alors tous les deux.
Ouais.
Juste après Roi, justement, le titre qui vous a révélé, vous êtes sur France Inter avec Bilal Hassani. Vous écoutez Boomerang, Reine, Roi, Diva. I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. The end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright.
Je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not a rich, but I'm shining bright. I can't see.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Mais c'est vrai que le problème avec lui quand l'émission commence, c'est qu'on sait jamais de quelle couleur seront ses cheveux. Et c'est vrai que c'est très troublant. En la matière, il est au moins aussi imprévisible que Nina Hagen ou Cyndi Lauper, c'est dire. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est son visage en triangle, ses traits d'une finesse presque irréelle, ses grands yeux de jeune fan ou d'émoji surpris, la jeunesse ce matin, et l'insolence polie avec son sweatshirt à col haut et avec une petite zipette, Bordeaux, Bilal Hassani, invité de Boomerang ce matin pour parler de rêves et de musique. Quand est-ce que vous avez commencé à étudier la musique, Bilal?
J'ai commencé à l'âge de 6 ans et demi au conservatoire de Breuillet dans le 91.
Et ces études alors, cette pratique plutôt académique, qu'est-ce que ça vous a apporté?
J'ai beaucoup aimé, j'en ai retenu presque rien, surtout dans la musique, dans tout ce qui est solfège, parce que je faisais de la guitare, du violon et du piano, et j'ai presque tout perdu.
Elles sont quand même des bases, non?
C'est des bases, oui, mais il me les fallait quand même pour trouver ma musicalité, pour connaître le sens du rythme et pour pouvoir m'adapter dans un environnement musical. Et donc après, j'ai fait le théâtre aussi. Donc c'était très enrichissant de se retrouver sur scène. J'avais 8 ans et je jouais avec des adultes. Je jouais Puck dans Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et je m'amusais bien. Et après, j'ai commencé l'école. Mais je pense que là où j'ai vraiment bien... où j'ai vraiment appris la musique, c'est quand j'ai commencé à errer, à aller tous les mercredis soirs après les cours dans des bars, des piano-bars pour chanter des chansons.
C'est à ce moment-là que vous commencez à composer vraiment vos titres?
C'est à ce moment-là que je commençais à composer mes titres, c'est à ce moment-là que je commence à découvrir comment on peut faire un arrangement musical. D'ailleurs, je souhaite préciser quand même que oui, j'avais 15-16 ans, mais ma mère venait tout le temps avec moi dans ces piano-bars pour voir le chaperon. mais oui, j'ai commencé à écrire mes chansons au début un petit peu timidement parce que j'étais jeune, j'étais vraiment un adolescent et qu'on me disait souvent, mais à ton âge, fais pas ça, occupe-toi de tes oignons et tu verras plus tard, c'est les grands qui font la musique.
Bah, ils sont trompés.
Et ils sont trompés, je crois.
Ce jour, Bilal Hassani, combien de morceaux est-ce que vous avez composé, à votre avis?
Je compte plus trop, j'ai pas compté ce que j'ai fait cette année. Avant, quand j'avais pas tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, j'avais beaucoup de temps à perdre, donc je comptais. J'avais un dossier sur mon ordinateur où on était à 217.
Ah, quand même!
Comme ça, ouais.
Ah.
J'ai commencé à vraiment écrire des chansons à 14 ans et je les enregistrais, je gardais toujours les traces au cas où.
Et comment est-ce que vous savez si un titre mérite d'être enregistré, c'est-à-dire de figurer sur un album?
Tout titre mérite de figurer sur un album, c'est juste que des fois, c'est une question de timing et de sensibilité. Donc moi, je garde tout. C'est pour ça que je supprime rien. Il y a des lignes mélodiques sur mon premier album qui datent de 2014 que j'avais mis à la poubelle, mais qu'en fait j'avais gardé dans un coin de la tête.
Donc il y a rien à réapparaître.
Ouais.
Mais vos toutes premières chansons, elles parlaient de quoi? Vous vous souvenez?
Il y avait un discours assez naïf sur la célébrité, parce que j'étais très fasciné par le ce qu'on appelle le star system, mais des chanteurs.
Hein. C'est une histoire de génération aussi.
Ouais, c'est une histoire de génération. Mais moi, j'aimais les chanteurs. J'aimais pas les acteurs. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais été fasciné par ce monde-là. Et j'aimais pas la culture qui est très actuelle de ce qu'on appelle famous for being famous, la célébrité.
Être célèbre pour être célèbre.
Voilà. Mmh. Ça, j'ai jamais trop compris. Mais les chanteuses, les chanteurs sur les red carpets qui annonçaient un nouveau single et que ça créait des mouvements, des gens qui s'évanouissaient au concert. Ça, j'étais très fasciné. Donc, je parlais beaucoup de ça en chanson.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de discours, vous parlez de texte, en fait. C'est toujours le texte qui prime.
Souvent. Il y a des idées de mélodie que je sépare complètement de tout. Donc, quand j'en ai, quand elles surgissent un petit peu, je vais dans ma petite application de dictaphone. C'est un vrai bazar là-dedans. Il y a des nanana, des petites idées de mélodie. Mais après, c'est surtout le texte. Donc, c'est 2h du matin, j'arrive pas à dormir et j'ai une idée vraiment qui veut pas sortir de la tête. Donc, je note plein de mots-clés. Et d'abord le texte et ensuite la chanson.
En tout cas, vous le disiez, cette envie de composer, d'écrire, de devenir artiste. Bilal Hassani, elle arrivait très tôt dans cette passion, dans cette vocation. De quel soutien ont été vos parents? Ils ont toujours été là?
Toujours. Ils ont toujours été là. Il y en avait des plus sceptiques que d'autres. Clin d'œil à mon papa.
Ça a changé,
mais,
ça.
Bah, oui, évidemment. Mais en fait, la seule différence avec mon père et ma mère, c'est que mon père se disait vraiment que c'était très, très compliqué d'atteindre ça.
C'était une inquiétude, en fait.
C'était un peu une inquiétude. Il me disait fais-le, hein. Mais juste dis-toi que ça va être compliqué parce que vous êtes des centaines de milliers à vouloir faire exactement la même chose et vous êtes tous et toutes autant talentueux. Donc, et je lui disais, mais moi, je suis meilleur, je suis le meilleur, je vais y arriver, papa. Il me disait, d'accord, si tu veux.
Et quel genre de conseil votre mère vous donnait?
Maman, elle me demandait de travailler. Parce que je cassais vraiment la tête avec ce truc de maman, je veux être chanteur, je veux remplir des stades et tout. Elle me disait d'abord, apprends la musique. Et donc, on a fait une sorte de deal où je lui ai promis que j'aurais mon bac. Et elle devait m'aider à avoir toutes les ressources nécessaires pour devenir l'artiste que je suis aujourd'hui.
Et elle vous a laissé beaucoup d'indépendance, en fait. Moi, c'est ce qui me marque. Quand même, Bilal, votre nom, par exemple, vous a conseillé de le changer. Bah, vous avez toujours tenu à le garder.
Carrément. Et on en a beaucoup parlé. Avec maman aussi, le truc qui était toujours très intéressant, c'est qu'on avait beaucoup de conversations, on a beaucoup discuté. On fermait jamais la porte à rien. Donc, par exemple, on va me dire, est-ce que tu voudrais changer de nom? Je pourrais dire un nom catégorique directement parce que je suis fier de mon nom et de mon prénom. Mais on fermait jamais la porte, on en parlait quand même d'abord.
Pourquoi on voulait le changer, ce nom?
On me disait que ça faisait pas, que c'était pas un bon nom de chanteur. Bilal Hassani.
Vous vous rendez compte de la violence, quand même?
Ouais, bah oui, un petit peu. Et c'était, voilà, c'est trop connoté, c'est trop arabe. Et on m'avait dit aussi que c'était pas bon d'avoir un nom comme ça dans le climat actuel. Donc, je m'étais dit, bon, d'accord. Super. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que mon nom sonne ou pas? C'est ça ce que je voulais savoir. Ce que j'ai testé, c'est, j'ai imaginé Oprah Winfrey me présenter pour une performance live. Et j'ai testé le nom, Bilal Hassani. Elle faisait Bilal Hassani. Et ça sonne quand même.
Ça sonne pas mal.
Voilà. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, je garderai mon nom.
J'adore.
Si Oprah le dit et que ça en jette, je le garde.
Il est super. Mais elle va le dire peut-être un jour.
Peut-être.
Vous l'avez contacté, Oprah, ou pas?
J'ai pas contacté Oprah. J'ai déjà été en contact avec Maria Carey et Janet Jackson. Donc c'est assez fou.
Et Maria, qu'est-ce qui s'est passé?
On s'est rencontrés à la fin d'un concert de Noël. Et elle m'a envoyé un petit cœur de soutien pour l'Eurovision.
Elle vous a parlé de Noël, j'espère, parce que c'est quand même celle qui a inventé Noël, disons les choses clairement.
Elle a inventé Noël et elle m'a souhaité un joyeux Noël. Ouais, c'est fou, hein. Et on a pris une petite photo. C'était un moment assez flou et assez magique.
Vous savez, il reste qu'une chose à faire dans ce cas-là. Il faut lui rendre hommage à nouveau à Maria Carey.
Oui.
Chanter. Il se trouve que vous avez choisi de reprendre ce matin un titre de Maria Carey au piano. Ça s'appelle My All. C'était sur l'album Butterfly en 1997. Vous n'étiez pas encore né. Et là, tout de suite, c'est vrai qu'on prend un coup de vieux, hein, Bilal. On va pas se leurrer. Pourquoi ce titre?
C'est mon morceau préféré de Maria Carey, qui est une grande inspiration pour moi. Je souhaite encore une fois mentionner, je le fais à chaque fois que je la mentionne dans une interview, que c'est elle qui écrit et qui compose tous ses morceaux, quasi seule, et qu'elle a beaucoup de talent et qu'on ne le mentionne pas, voire très rarement en tout cas.
Mais ce titre en particulier.
Et cette chanson, My All, c'est mon titre préféré en fait de toute sa discographie, parce que ben en fait il y avait cet esprit qui était donc très actuel à l'époque, en 97, c'était la Spanish guitare qui se jouait beaucoup. Il y avait Toni Braxton avec Unbreak My Heart. Il fait beaucoup de chansons avec cette guitare-là. Mais elle l'a amenée d'une manière, en fait, un petit peu différente. Et c'était tellement doux. Et pour du Maria Carey, qui va quand même nous faire des grands belts et des grandes notes. Et c'est toujours très grand, sa musique. Cette chanson, c'est très intime, en fait.
Il y a un sens du drame, quand même, dans cette chanson.
Oui, I give my all to have just one more night with you.
Ah bah, je donnerais tout. Je donnerais toute ma vie, tout ce que je suis.
Pour passer rien qu'une nuit avec toi. C'est un petit peu dramatique, mais dans la voix, en fait, dans l'intention vocale et dans la production, dans l'arrangement, tout, je trouvais que c'était vraiment agréable à écouter. Et cet album, Butterfly, moi, c'est un album que j'aime beaucoup. C'est l'album de l'émancipation. C'est son premier album après sa rupture avec Tommy Mottola, le grand producteur.
Vous êtes marrant parce que vous êtes très technique.
Ouais, je suis très technique. Moi, mais c'est surtout pour ça que j'aime cet album, parce que c'est un album de libération. Elle se libérait d'un mariage difficile, et c'est pour ça que ça s'appelait Butterfly, et c'était là qu'elle a commencé à montrer son corps un petit peu, et ça se sent dans la voix aussi. C'est pour ça que My All, c'est une chanson que j'aime beaucoup.
Bon, allez, on y va. On vous écoute là.
Oui.
On y va.
If it's wrong to love you,
in my heart just won't let me be right. Cause I've drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel your body next to mine. Cause I can't go on living in the memory of a song. I'd give my all for your love tonight. I'd give my all for your love tonight. I'd give my all for your love tonight.
Oh là là, les divas peuvent aller se cacher. Merci Bilal Hassani qui reprend Maria Carey en exclusivité dans Boomerang. Merci Bilal d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre premier album s'appelle Kingdom, que votre autobiographie Singulier, écrite en collaboration avec Delphine Sobaber, vient de paraître chez Plomb, et que vous serez en concert l'année prochaine, notamment le 11 mars à Saint-Grégoire, le 14 mars à Bétoncourt, le 18 avril au Trianon à Paris. Tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice avec Emmanuel Davier.